syllabes.
La radio sauvage.
La radio sauvage.
Olivier Chitam.
Quel accent.
On est de retour pour une chronique. C'est toi, Bérénice, qui t'y cause. Tu vas nous parler des objets connectés dans le sport.
Alors, sport peut rimer avec technologie. Vous êtes même has-been si vous faites du
pas,
sport. Non, mais... Merci Antoine. Vous êtes même has-been si vous faites du sport sans être connecté. Les applications sur téléphone ont largement favorisé l'utilisation d'objets connectés. Rien que sur l'iPhone, pour ceux qui ne datent pas de la première génération, tous ont l'application Santé, qui permet de compter les pas, les étages, et vous, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez calculer vos battements de cœur par minute, votre VMA, votre temps de sommeil. Que vous soyez adepte de sport, de fitness, de football américain, de basket, il y en a pour tous les goûts. À commencer par le tapis de yoga, c'est un peu comme les anciens qui connaissent la balance Wii avec le jeu Wii Fit. Ce tapis permet de vous donner des informations sur les meilleures positions à adopter, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pour nos amis les rugbyman, mais pas que, on peut maintenant se servir d'un protège-dents connecté. Le principe est simple, en fonction de l'intensité des chocs, c'est lui qui donne le feu vert de reprendre le jeu ou non. Selon une étude, près de 10% de sportifs américains subissent une commotion cérébrale. Donc ce gadget pourrait alors désormais servir à réduire le nombre d'incidents.
Moi aussi j'ai eu une commotion cérébrale un jour.
Bah c'est...
Voilà, c'était le moment de partage.
Désolé Raph.
Non mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense qui ont une commotion cérébrale. Ça arrive très vite quoi. Les montres connectées sont très connues du grand public, ce qui permet de calculer vos pas, votre distance parcourue, votre rythme cardiaque et ce qui s'ensuit. Les lunettes connectées vont bientôt se démocratiser. Il sera désormais possible de pouvoir visualiser le GPS, le rythme cardiaque et tout ce qu'un objet connecté peut procurer. Également, il y a des smells qui peuvent vous donner des informations sur le running, les calories perdues et votre temps d'effort. Moins connus de tous, ce sont les simples objets d'un sportif, c'est-à-dire la batte de baseball, le ballon de basket et la raquette de tennis. Ces trois objets donnent dès à présent des informations quant à l'intensité du mouvement pour permettre de s'améliorer. Et enfin, chose plus originale, le maillot connecté. Est-ce que vous savez à quoi ça pourrait servir?
Bah, savoir, t'as de la vitesse quand tu nages?
Ouais, bah.
Et bah, en fait, non, c'est même pas pour le joueur, c'est pour le supporter. Dès septembre, c'est Nike qui a commercialisé ce produit. Et en fait, ils ont commencé d'abord par le basket en NBA. Et si vous achetez un maillot connecté, lors d'un match, vous avez des cadeaux à gagner. C'est sur le site de Nike. Vous, avec votre téléphone, vous regardez avec votre maillot. Je ne sais pas trop comment ça se fait, mais vous avez des sortes de codes. Et vous pouvez voir des cadeaux à gagner pendant le match, des informations sur le joueur, son équipe et sur le reste de la ligue. Et il y a également des offres comme des billets pour les autres matchs à suivre.
Et tu parles bien le maillot
J'ai pas regardé, j'avoue.
Ça doit pas être donné. Hein.
Non, je pense que ça doit pas être donné.
Mais c'est une petite révolution, c'est sûr.
Raph, croyait qu'on parlait d'un maillot de bain. C'est compliqué pour jouer au basket.
Ça coûte 80 euros.
Ah oui, quand même.
Au final, c'est pas si cher que ça. Hein.
Ouais, c'est comme un maillot
de Rennes est à 85
voilà.
C'est bizarre que ça soit si peu cher.
C'est juste qu'en soi, c'est pas compliqué à instaurer. C'est juste que t'as un
Nike,
code.
Donc dès que t'as une nouveauté, ça.
Ouais mais en vrai, c'est pas si cher.
Très bien, bah merci pour cette précision, c'était fort intéressant. On change carrément de sujet, on va parler du rugby et du 15 de France hein, plus exactement. Donc ils ont joué, dimanche dernier en Écosse.
Une semaine on va dire, ouais.
Ils avaient bien débuté, Teddy Thomas avait marqué deux essais, mais après en deuxième mi-temps ils sont complètement démobilisés, ils ont perdu le match au final contre l'Écosse. Voilà, donc ça c'est pour la performance sportive, mais après on a su... C'est une info qui est sortie le lundi. L'info qu'on a eue, c'est plusieurs joueurs de l'équipe de France ont été interdits de prendre l'avion pour retourner en France parce que la police est arrivée pour les interpeller.
On en a parlé un peu lundi, on n'avait pas d'infos en fait, on savait juste que certains joueurs étaient entendus par la police pour une affaire d'agression sexuelle dans laquelle ils n'étaient pas forcément partis mais plus témoins. Et en fait, tout au long de la semaine, il y a eu des démêlés de l'affaire qui sont sortis. En fait, là, on en parlait avec Clément pendant la pause, on arrive à un état de fait où il y a des joueurs qui sont accusés de faits qui sont absolument gravissime pour des joueurs professionnels. Quoi. On a vu, il y a un article qui est sorti, comme quoi il y a des joueurs qui s'étaient donné des fessées à des femmes qui ont porté plainte pour agression sexuelle.
La fameuse soirée fessée.
Comme ça qu'on l'appelle.
C'est une affaire, ouais.
Il y a des supporters écossais qui ont voulu discuter avec les joueurs du match. Les joueurs étaient dans un état d'ébriété extrêmement avancé.
On fait une rapide remise en contexte. Donc, comme tu l'as dit, Raph, ils sont sortis le soir du match. Ils sont allés dans le centre-ville pour boire des coups, la fameuse troisième mi-temps.
Ce qu'il faut dire, c'est que l'entraîneur du 15 de France,
Jacques Brunel, a autorisé.
En fait, c'est pas qu'il a autorisé, c'est qu'il n'a pas interdit.
Il
a pas donné de consigne pour la soirée. Parfois, il peut avoir une consigne, vous restez dans vos chambres, vous restez à l'hôtel. Là, il n'y avait pas de consigne. Mais c'est quand même assez logique qu'après une défaite, on sorte pas pour boire. Quoi.
On va en parler après de ça.
Boire pour oublier, hein.
Mais quand t'es sportif professionnel, tu représentes ton pays, quoi.
Revenons sur les faits, du coup, ils sont sortis.
C'était éméché. Ouais. Comme a dit Antoine, ils ont rencontré des supporters écossais qui, soi-disant, voulaient. Après, encore une fois, c'est souvent aussi contre les sportifs. On va dire que les écossais voulaient parler du match. En soi, dans les faits, ils ont voulu parler du match. Les Français se sont battus. C'était bref mais intense, selon les dires aussi. Et à la suite de ça, ils sont aussi rentrés à l'hôtel. Teddy Thomas, qui a été écouté, le joueur du Racing, a été écouté parce qu'en fait, ça c'est la petite anecdote qui est, si on peut dire, amusante. Il y a une femme qui a porté plainte. Si Teddy Thomas a été interpellé par la police et écouté, c'est parce que la femme connaissait simplement le nom de Teddy Thomas, du joueur. Elle a dit il y avait Teddy Thomas, donc Teddy Thomas a été écouté et ce serait pas lui qui serait mêlé à cette affaire avec cette femme là.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'au départ, les informations qu'on a eues, c'est que la version officielle du 15 de France était donc il y avait deux joueurs qui sont revenus avec un nez cassé et un œil au bord noir. Le premier se serait cogné contre son étagère et le second aurait sauté dans son lit.
Ouais, Arthur Ituria pour le
Ils ont pris les médias et les supporters du 15 de France pour des glands, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, au fur et à mesure, on apprend des choses. Et imaginez-vous, me remettre ça dans le contexte, s'il y avait été des joueurs de football de l'équipe de France, il y aurait eu des démêlés, médiatiquement, ça aurait été un tollé comme on n'a jamais connu, alors qu'on a déjà des précédents. Important.
Après, quand t'es sportif, t'as une image que tu te dois d'avoir.
Encore plus quand surtout représentes l'équipe de France.
Et surtout quand tu représentes l'équipe de France, et surtout quand t'es en pleine.
En plein rassemblement.
T'as perdu la veille aussi, quoi.
Ouais, déjà, tu sors pas de
base. Et que la compétition n'est pas finie.
Imaginez juste qu'on perde un match de la Coupe du Monde en Russie et que Antoine Griezmann, Paul Pogba et Kylian Mbappé soient retrouvés dans un bar en train de boire.
C'est affaire d'État.
Et là, c'est fini. Alors que là, ils sont allés boire. Ils ont tapé des supporters, ils sont revenus avec la gueule cassée et ils ont mis des, il y avait des filles dans leur chambre. Enfin là, on est dans un autre monde, là, c'est une autre planète. Hein.
Ouais, c'est incroyable. Moi, ça me fait penser à l'affaire de Nice Now en 2010 avec l'équipe de France justement.
C'est limite encore pire là.
Ouais, c'est vrai que
dépasse tout là.
C'est un peu n'importe quoi, faut le dire.
Et donc la plainte de cette fameuse fille qui aurait été dans l'hôtel avec les joueurs a été retirée.
Elle s'est retrouvée fessée un petit peu trop violente.
Elle s'est retrouvée dans la chambre avec plusieurs rugbymen, donc tu m'étonnes, ça doit pas être très rassurant. Et elle aurait elle serait revenue sur sa plainte. Et je sais pas si c'était dit Thomas ou un autre qui aurait dit peut-être parce qu'elle a été mise sous pression. Enfin.
Sinon, il y avait aussi le débat, comme la journée du top 14 avait lieu aujourd'hui, et beaucoup de joueurs de l'équipe de France jouent dans le top 14. Il y avait aussi à savoir si les clubs respectifs allaient sanctionner les joueurs. Ils l'ont pas fait parce que Teddy Thomas a joué, tu l'as dit tout à l'heure.
Il y en a un seul qui a été sanctionné, sanctionné, sinon les autres ils l'ont pas été.
C'est un peu comme on avait l'affaire Serge Aurier, quand les joueurs ont le choix soit d'avoir un joueur même s'il a fait une connerie, on se prive rarement d'un joueur qui peut faire apporter à l'équipe. Il y a des enjeux sont tellement importants que dans le sport de haut niveau, voilà, Serge Aurier il aurait dû être viré du Paris Saint-Germain, ça a pas été le cas.
En tout cas, pour le match de l'Italie vendredi, par contre, les joueurs là qui ont été inculpés,
les joueurs ont été virés par le sécurité du 15 de France. C'est la moindre des choses quand même. C'est
réaction
quand même la
de l'équipe de France, on l'espère quand même contre l'Italie.
Ah là, c'est
normalement ils doivent gagner.
C'est une formalité en quelque sorte.
Et qui plus est avec l'histoire, là, il faut faire une victoire avec la manière et pour faire oublier un peu.
J'écoutais quand même hier Chabal sur le plateau du Canal Rugby Club qui avait quand même des doutes. Hein. Et même lui.
Ah mais là quand on écoute par exemple RMC qui est une radio vraiment pro rugby avec quelqu'un comme Moscato qui a été international français, on sent qu'il y a une démobilisation de tout le monde. Quoi.
Après
même
quand tout va mal comme ça aussi, on a souvent tendance à
faut se rappeler que nous, au football, en 2010, après la Coupe du Monde, c'est pareil, il y avait une sorte de marasme ambiant et personne n'était optimiste. Et même contre les plus petites équipes, on avait peur de s'entendre.
Mais le problème, c'est là qu'il n'y a pas que le sportif qui ne va pas. Quoi. Cette affaire-là qui vient entacher totalement... C'est compliqué, mais on verra ça contre l'Italie. Hein.
Ouais, voilà. Donc le match à suivre vendredi soir contre l'Italie. On va parler du All-Star Game. C'était ce week-end, donc pas de NBA, c'était le All-Star Game. C'est une toute nouvelle formule, juste pour le match des All-Star, mais enfin ça a été une autre formule. Sinon c'est toujours pareil. Donc le premier soir c'est le Rising Star Challenge. Donc en fait c'est les équipes, les rookies, donc les premières années, les joueurs d'NBA de première année sont opposés. Donc une catégorie joueurs américains, donc que des joueurs américains, les rookies américains, contre une équipe World, donc tous les rookies qui jouent, qui sont pas américains. Donc il y avait Frank notamment Frank Nikilia. Je sais plus comment on dit son nom, le jeune français qui a rejoint les Knicks, Nilikina, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Donc voilà, donc
il nous en voudra pas, je pense.
Ouais, c'est l'équipe non américaine qui a remporté le Rising Star. Clément, tu as un peu suivi le Rising Star, tu m'as dit ce matin, qu'est-ce que tu...
Ouais, j'ai regardé ça un peu. Avant, j'avais pas mal de clichés sur sur les All-Star Games. Le fait que les joueurs ils défendent pas, c'est tout, la place elle est que à l'attaque. Mais là cette année c'était un peu mieux, il y avait plus de tactique, j'ai préféré, et puis c'est toujours un show, un spectacle, c'est toujours intéressant pour les gens qui s'intéressent pas forcément de manière régulière à la NBA, au basket américain en général. C'est un peu comme le Super Bowl en soi, c'est un grand show, un grand spectacle,
génial, hein.
Et ouais, c'est vraiment cool, c'est ça, parce que à suivre.
La formule est un peu différente cette année, parce que c'était Team LeBron contre Team Curry, c'était hier soir, mais avant ça il y avait le traditionnel Skill Challenge, donc un parcours avec un layup et un tir à 3 points à mettre. Ça c'est une surprise, c'est Dinwiddie, le joueur de Brooklyn qui a gagné, et le concours à 3 points, donc voilà, ils sont autour de la ligne de 3 points, ils doivent marquer le plus possible de shoot à 3 points, et c'est Devin Booker, le jeune des Phoenix Suns qui a remporté, et le Dunk Challenge toujours impressionnant, ça a été remporté par un rookie, Donovan Mitchell de Utah Jazz. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais là son... parce qu'il y en avait 5 il me semble, 5 qui se confrontaient, et les deux meilleurs allaient en finale. Donc Donovan Mitchell, le premier dunk, il a mis un autre panier, il a lancé la balle, il l'a prise, il a dunké sur le vrai panier, et en finale il a refait un remake de la légende Kevin Garnett, un 360 renversé de dunk. Il a fait ça pour gagner, là c'était vraiment incroyable. Donc voilà, c'est lui qui a remporté. Et donc le match de hier soir c'était Team LeBron contre Team Steph Curry. Donc avant c'était Conférence Ouest contre Conférence Est, justement il y avait des reproches comme quoi ça défendait pas, qu'il n'y avait pas de tactique, que ça servait à rien, il y avait des scores de 200 à 200 et quel. Donc là ça a été une toute nouvelle formule. Donc LeBron James et Steph Curry, les deux meilleurs joueurs de la ligue, ont été désignés capitaines, et c'était un peu comme la cour de récré, ils ont choisi un par un les joueurs qui voulaient. Donc dans la team de LeBron il y avait Kyrie Irving, il y avait qui d'autre, il y avait je sais plus qui avait
Kevin Durant,
oui c'est ça, oui.
Westbrook aussi,
il y avait Westbrook, ouais. Il y avait de l'autre côté Steph Curry, il y avait Joel Embiid, il y avait DeMar DeRozan, voilà des grosses pointures, et c'est quand même la team LeBron qui a gagné. Et LeBron James MVP pour la troisième fois, voilà, le King qui remporte encore ce match. Donc voilà, une nouvelle formule, je pense qu'il sera, les joueurs ont adoré le concept, donc
c'était sympa, voilà. Hein.
Donc les joueurs reconduiront, donc ça va être comme ça les All-Star Games.
D'ailleurs pour l'épreuve de dunk, juste il y a une anecdote qui est cool, c'est le finaliste face à Donovan Mitchell, c'est Larry Nance Jr. Son père, Larry Nance Senior, hein, que c'est original mais c'est à l'américaine,
c'est ça.
Il a été vainqueur du tout premier concours de dunk, c'était en 1984,
c'est ça.
Et son fils a créé le même skill que son père avait fait et qui lui avait permis de gagner.
Il y avait un illusionniste qui change de vêtements très rapidement, il est allé comme ça, il a mis la même tenue que son père avec le short très court, les grandes chaussettes hautes comme dans les années
old school, quoi.
Voilà, c'est ça. Il a refait le même dunk que son père, donc vraiment c'était une chouette
image
pour les deux. Voilà, on revient après une petite pause musicale, on écoute Point A Piece of Sun, et après on parle des JO et de la Ligue des Champions. À tout de suite.
Syllab.
La radio sauvage.
La radio sauvage.
On est de retour sur Syllab et Antoine, tu as quelques mots à nous dire sur la Coupe du Monde de U20.
Oui, alors c'est un rendez-vous qu'on prend régulièrement maintenant depuis le retour de l'émission en 2018. La Coupe du Monde féminine U20, donc pour les joueuses de moins de 20 ans, hein, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, aura lieu en Bretagne, je vous l'ai déjà dit, donc à Vannes, Saint-Malo, Concarneau et Dinan-Léon. Les joueuses de l'équipe de France vont rencontrer les États-Unis qui sont évidemment qualifiés pour la phase finale au mois d'août le 3 et le 6 mars à Saint-Malo et Vannes, donc ce sera deux matchs amicaux un peu pour jauger le niveau des Françaises face à une des équipes favorites de la compétition. Et une bonne nouvelle, on n'avait pas de joueuses qui jouent en Bretagne qui étaient sélectionnées pour l'instant. Deux joueuses, Jade Le Bastard, la gardienne de Guingamp, et Romane Anguehar, la défenseuse de Saint-Malo, ont été sélectionnées par le coach Gilles Ekem. Elles rejoindront le groupe France et elles seront sélectionnées pour ces rencontres. À noter, le tirage au sort des groupes et des rencontres de cette compétition aura lieu le 8 mars à Rennes.
Merci pour ces précisions, hein. merci pour ça. On suivra ça bien sûr tout au long de l'année pour l'émission. On passe à la Ligue des Champions, hein, bien sûr. Je pense que la plupart de nos auditeurs étaient devant leur... Alors c'était la Saint-Valentin aussi, c'était compliqué le choix. Hein.
Ouais, on peut aller au restaurant à 17h dans les 4 forces majeures.
Ah, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Hein.
C'est vrai, l'année dernière, la remontada aussi était le 14.
Non, c'était l'allée,
c'était l'allée
le 14.
Qui était d'accord.
Pour les supporters du PSG, c'est compliqué. Enfin, pour les copines de supporters du PSG...
Alors, vous avez fait des pronos, moi j'étais pas là, mais dis-nous un peu qui a été le meilleur des
pronos. On n'a pas été mauvais, une fois n'est pas coutume, hein, surtout Clément d'habitude est un peu poissard, hein, il le reconnaît lui-même, donc je ne lui fais pas un jeu en le disant.
Mais là,
Clément
a
été très bon, hein, on peut le dire. Bon, Clément avait dit nul ou défaite de Tottenham, donc la Juve a gagné.
Non, il y a eu nul. Il y a eu deux partout.
Oui, deux partout. Mais c'est facile aussi si tu dis.
Mais aussi,
ouais,
si
mais c'était le seul. 3, et je voyais 2-1 pour la Juve ou 2-2.
Ouais.
Il y a eu 2-2.
Le Real a gagné 3-1. Clément avait dit 3-2. Donc là, encore une fois,
pas loin,
était pas mal. Liverpool, moi j'avais dit victoire du Real et Bérénice a dit 2-1 à tous les matchs de toute façon.
Ah d'accord.
Non, j'ai pas dit 2-1 à tous les matchs. Il y en a un que j'ai dit match nul.
Non, il y en a un où t'as dit 3-1 Bérénice. 3-1, ça fait pas match nul.
J'avais dit.
Bref. Et pour Liverpool, Clément avait dit 2-0. Liverpool a gagné 5-0. Voilà. On reste sur une victoire des Reds. Et pour Manchester City, Clément avait dit victoire 3-1. Ça fait 4-0. Donc
j'avais dit 3-1 ou 4-1.
Ouais,
encore une
donc
fois.
Bon. Clément a eu bon sur les résultats. Ouais. Moi, personnellement, j'avais pas donné de score exact. J'avais dit que ce serait serré entre la Juve et Tottenham. Ça a fait un nul. Que le Real allait gagner, le Real a gagné. Enfin voilà, on était plutôt pas mal et Bérénice n'a pas été trop loin du compte non plus.
Très bien, et bah avec mon retour on va devoir mettre les scores exacts là.
En bonne et due forme.
Pour, qu'on fasse
les buteurs, les passeurs décisifs aussi, Raph.
Et la minute de but. demain.
Demain alors, dis-nous c'est quoi le programme.
On a Barça. Chelsea-Barça à Stamford Bridge, une rencontre qu'on voit souvent en Ligue des Champions, mine de rien, c'est une revanche de prestations qu'on avait vues dans les dernières années. Lionel Messi n'a jamais marqué contre c'est Chelsea, c'est une stat intéressante, il a joué plusieurs fois, il n'a jamais joué contre eux. Donc Clément, c'est quoi ton prono là?
C'est à Chelsea, moi je dirais 2-2.
Match nul avec
ouais,
des
je verrais
buts,
bien un match nul, les deux équipes qui marquent.
Moi je pense que les deux équipes marqueront, ça m'arrangerait personnellement. Mais ouais, avec pourquoi pas un premier but de Messi face à Chelsea, pourquoi pas un but de Giroud. Donc ouais, je pense qu'un match nul avec des buts,
ouais, je vois bien.
Un partout,
puis,
de deux.
Un partout Antoine ouais.
Moi je dis 2-2 moi. Et puis au retour, le Barça se qualifiera, mais ça on en parlera plus quand ce sera le temps d'en parler.
Bah moi je vais vous surprendre, je vois une victoire du Barça 2-0.
Bon ça me surprend pas hein, parce que
vu le niveau de Chelsea
vrai,
et du Barça,
c'est
possible.
Je me dis ça
après en Ligue des Champions, je pense que Chelsea sera solide, surtout avec un entraîneur comme Conte qui aime bien mettre des équipes solides.
Et est-ce que Dembélé va être titulaire?
Je pense pas que Dembélé.
Il va peut-être rentrer, mais
Dembélé sera pas titulaire.
Dembélé en tout cas il est attendu au tournant parce que il s'est blessé, il s'est reblessé.
Et ses matchs depuis qu'il est revenu, c'est pas génial. Demain,
dis-nous.
Moi je vois bien 2-2 aussi également.
2-2 aussi, très bien.
Demain, on aura également un match, alors là, qui va être moins compliqué à pronostiquer. Le Bayern Munich accueille le Beşiktaş d'Istanbul. Et là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire une victoire du Bayern.
Ouais, mais il faut faire attention quand même à Beşiktaş, qui a bien surpris en phase de poule.
Et petite info, pour la première fois de la saison de Ligue des Champions, le Bayern a tous ses joueurs sauf Neuer. Donc on aura Boateng, Hummels, Lewandowski, Robben, Ribéry. Tout le monde est là, l'armada offensive bavaroise
très
est présente.
D'ailleurs, juste où tu parles de Neuer, Ulreich, il a mis un peu de temps à s'y mettre, mais finalement,
ouais.
C'est quand même
ouais, il est pas mal,
un
bon gardien. C'est un bon gardien.
Donc là, alors, vos pronostics là-dessus.
3-1 pour le Bayern.
Moi, je veux dire 4-0 pour le Bayern.
Je vois bien un but de Beşiktaş, moi. Talisca qui est vraiment bon.
Bah, moi, j'ai envie de dire le même score que toi,
ouais, 3-1.
Et toi, Bérénice,
moi, 3-0.
3-0, et bah, très bien. très bien, très bien. Le
mercredi, Séville, vainqueur de 3 Europa League de suite, hein, il n'y a pas si longtemps.
C'est vrai. On
reçoit Manchester United, dernier vainqueur de l'Europa League. C'est une rencontre de vainqueur d'Europa League. Donc Manchester, habitué aux joutes européennes, peut-être un peu moins ces dernières saisons, mais quand même une équipe qui a l'expérience de cette compétition. On rappelle qu'Alexis Sanchez pourra jouer, hein, contrairement à Coutinho au Barça, parce que Coutinho a joué avec Liverpool et Sanchez n'a pas joué avec Arsenal. Donc bon, moi je vois une victoire de Manchester, avec des buts, quelque chose comme 3-2, pourquoi pas.
Ouais, pour Manchester.
C'est pas mal. C'est deux équipes qui sont un peu irrégulières, mais je pense que United, là, ils sont de retour en Ligue des Champions depuis quelques temps. Ils vont avoir à cœur de se qualifier face à une équipe de Séville qui est
Séville, pas c'est
très
génial, hein, c'est 7ème du championnat espagnol, c'est moins fort que les
Moi, je mets 2-1 pour United. Je verrais bien Séville essayer de cadenasser un petit peu. Un but de Ben Yedder, et puis après, bon, pour United,
moi,
je sais pas.
Je vois l'inverse de toi. Je mets 2-1 pour Séville, toi.
Ouais. Après, je pense que ça
Les
ça
deux défenses sont friables. Hein. Je pense que ça va y avoir des buts parce que.
Séville sont toujours bien dans les compétitions européennes, c'est pour ça que je me fais pas de soucis pour eux, surtout chez eux. Bérénice, dis-nous.
Ouais, moi, je vois bien un match nul de 2. Parce qu'ils ont quand même un niveau assez équivalent, donc match
nul. En revanche, pour le retour, je me fais moins de soucis pour United.
Ouais, c'est plus compliqué.
Le dernier match, du coup,
C'est le Shakhtar Donetsk, tombeur de Manchester City, la seule équipe cette saison qui a fait tomber City en Ligue des Champions, qui accueillera la Roma. Moi, je vois un match nul avec des buts, quelque chose comme 2-2, pourquoi pas, avec deux équipes qui peuvent marquer. Shakhtar, c'est compliqué chez eux, ils sont compliqués à bouger.
Shakhtar, c'est très compliqué, la Roma, c'est pareil, c'est irrégulier. Ouais. Moi, je pense que je vais surprendre, je vais dire une victoire du Shakhtar
c'est possible, hein,
à domicile un petit 2-1. Ils vont commencer fort, le Shakhtar, la Roma va revenir, après ça va cadenasser, Shakhtar.
Moi, je dis 1-0 aussi pour le Shakhtar.
Avec moi, des bons joueurs, connus. 3-2 pour le Shakhtar.
3-2. Très bien, et bah voilà. N'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux, vous les auditeurs, à nous dire les pronos. Comme ça, vous pourrez voir aussi si vous avez raison. Et vous mettez pas d'argent. Donc, de toute façon, c'est que pour le fun, ces petits pronos. N'hésitez pas à nous les dire, en tout cas.
On avait parlé un peu d'Europa League. Ça s'est plutôt bien placé pour nos clubs français, surtout pour Marseille qui a gagné 3-0 à domicile contre Braga. Ça devrait le faire pour la qualif.
Oui.
C'est en Ligue Europa, ça joue en deux semaines. Hein, ça joue direct parce que c'était les 32e. Les 16e, pardon. Lyon a gagné aussi.
3-1 contre Villarreal.
Donc, 3-1, attention, but à l'extérieur. Mais je pense que Lyon, ça va pouvoir le faire. Et alors, Nice a dégoupillé. Ils menaient 2-0. Ils ont perdu 3-2 avec
Rouge.
Ouais. Alors que Balotelli avait fait le travail, il avait mis deux buts. On ne sait jamais, pourquoi pas un grand match de Balotelli, une belle prestation défensive.
Le
Comotion est premier. Et surtout, aller jouer en Russie. C'est à 17h jeudi, parce que en ce moment, en Russie, il fait pas chaud. Mais
moi, je vois bien un match fermé, le Locomotiv qui ferme tout en défense, et en 0-0.
Il nous reste 10 minutes, les amis, donc on va parler des JO.
Oui.
Ça, c'est lundi dernier, quand vous avez fait l'émission, Martin Fourcade venait juste de gagner. C'était la poursuite.
La poursuite, ouais.
Ouais, et là, il a fait des bêtises.
Fortune diverse pour Martin Fourcade, parce qu'il aurait clairement pu avoir 3 médailles.
Il a raté ses 2 dernières balles lors du.
En fait, il y a 20 tirs au 20 km. Il était à 18 sur 18, il était parfait. Clairement, s'il en mettait juste un sur les 2 derniers, il avait la médaille d'or.
Ouais, il en a fait 2 erreurs.
Il a fait 2 erreurs, vraiment incompréhensibles. Ouais. Même lui, à la fin de la course, il comprenait pas ce qui s'était passé.
Mais ce qui est incroyable avec lui, c'est que. Il est dans le dur et puis l'épreuve d'après. Hop,
mais limite,
il
c'est
met tout
l'impression
que ça
le galvanise. Quoi,
quand, c'est incroyable.
C'est un combattant.
Si vous ne l'avez pas suivi, il a fini 5e. C'est Johannes Bö qui a fini premier.
Les frères Bö, excellent. C'était très agréable à suivre comme discipline.
C'est vrai. Ouais. Et là, donc, c'était dimanche, hier. Mastart, épreuve reine de Biathlon.
C'est vraiment incroyable.
C'est vraiment ça. C'est les 30 meilleurs en fait, qui sont dans la Mastart. Et donc tout le monde part d'un coup et Martin Fourcade a été énorme jusqu'au bout. Il a
ça s'est
gagné
joué
de...
à la photo finish
face à Simon Schemp, l'Allemand. Ouais. C'était ils ont attendu la photo finish.
C'est le genre de
champion olympique de la première épreuve. C'était quoi la première épreuve?
J'ai plus le nom.
C'était en équipe?
Non, première épreuve. Il est champion olympique.
Alors là, tu nous poses une colle
de la première preuve.
Tu nous poses une
colle. Il avait fini 8e là, Fourcade.
Ouais, mais c'est ça, Fourcade. Une défaite, il se reprend. Enfin, il est jamais dans le dur très longtemps, Martin Fourcade. C'est vraiment un des athlètes les plus iconiques de l'équipe de France.
En border cross, Pierre Voltier, double champion olympique, back to back. Il a encore fini premier. C'est vraiment lui, il est énorme. Et ça donne un peu de vision pour le snowboard.
On n'a pas énormément de médailles, mais on a des sports, on a des vrais spécialistes. Quand on y va, c'est pas pour faire de la figuration.
On a 10 médailles, on est à égalité avec l'Autriche. 4 or.
C'est vrai qu'on n'est pas forcément un pays spécialisé dans les JO d'hiver, mais on a des disciplines dans lesquelles on est
fort. En border cross féminine aussi, c'est une jeune de 16 ans qui a fini 3e.
Ouais.
Qui a un nom à rallonge là.
Un nom à consonance un peu hispanique ouais. Portugais, ouais.
Mais elle ouais, 16 ans, elle
ouais,
est
16 ans,
troisième.
Championne olympique, c'est impressionnant.
C'est incroyable.
Ouais.
Alexis Pinturo aussi, qui a
ouais,
été très bah,
Alexis
bon.
Alexis Pinturo, l'éternel, il est toujours là. Ouais. Il faut parler de
médaille de bronze et d'argent.
Ski. Ouais.
Les en ski de fond aussi, l'équipe de France bronze.
Puis la petite note coca, c'était en patinage artistique avec Papadakis qui a vu un téton s'échapper lors de.
C'était cette nuit,
lors
ouais.
De l'épreuve de cette nuit. Elle a dit qu'elle avait redouté ça toute sa carrière et que ça lui arrivait pendant les JO. Elle a senti dès le début sa combi se déchirer et du coup ils ont réussi à finir et du coup ils ont dit que ça leur avait quand même fait perdre quelques dixièmes de points.
Ils sont encore dans la
course. Ils sont encore dans la course, ils sont deuxièmes, ils peuvent tout à fait gagner. C'est les favoris. Ils
c'est
peuvent
cette
tout
nuit,
à fait gagner.
Crois,
c'est cette nuit, d'accord. Donc demain matin on aura la
on
réponse.
Verra s'il y a une médaille d'or.
On espère. On espère. Ce serait bien.
Voilà, les JO savent ça, c'est encore toute la semaine. Ouais. Hein, c'est un peu compliqué le décalage hein, avec.
Le matin, le midi jusqu'à 14h, ouais, à peu ouais, près, on peut ça. Suivre ça sur France Télévisions.
Sinon, c'est tard le soir, donc. Ouais. Je pense pas que beaucoup de personnes quand même se lèvent tous les nuits pour regarder.
À part les vrais amateurs.
Les aficionados.
Ouais, ou les familles aussi qui regardent pour regarder leur.
Ouais, bien sûr.
Évidemment.
Personne
mais bon, on a pu suivre Martin Fourcade dans toutes ces épreuves.
C'est ça, parce que c'est le
temps.
Soir et c'est vers midi. Donc, demain, c'est l'épreuve par équipe, il me semble.
C'est possible. Demain, on espère Martin Fourcade encore une médaille.
Avec les autres.
Avec les autres Français qui sont loin d'être mauvais.
Antonin Guigona qui ouais. est pas mal.
Non, on a une belle équipe.
Maillet qui est aussi.
Après, les frères Beu vont être compliqués.
C'est ça, les Allemands aussi.
Ouais. Les Allemands, les frères Beu vont être compliqués à détruire.
Les Suédois peuvent être.
Avec Emmanuelson ou Williamson.
Samuelson.
Mais il a 19 ans.
Ouais.
Impressionnant, il est très très bon.
Deuxième dans la poursuite.
Ouais. Mais même l'épreuve.
C'est vrai,
il avait été excellent.
Allez, on termine rapidement avec les top flops. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a dérangé?
Bah, moi, en top, j'ai Martin Fourcade. C'est pas original, mais le sprint final avec la photo finish, il s'est littéralement jeté pour décrocher la première place. Franchement, je me demande, ça aurait été sympa aussi de voir Simon Schemp, son adversaire, faire de même. Parce que Martin Fourcade, il a gagné à l'audace en se jetant. Mm-hmm. Ça aurait été vraiment drôle de voir
donc
les deux le faire.
Il l'a perdu comme ça devant il,
et bah ouais, je pense que ouais, ça l'a inspiré.
Il a dû rester marqué.
Ouais.
Il pensait avoir perdu d'ailleurs.
Ouais, il était certain, ouais, c'est vrai.
Et
pour mon flop, j'en ai parlé en début d'émission, j'y reviens, c'est Rami Ben Sebaini. J'ai pas envie de l'accabler plus que ça, mais ça fait beaucoup de performances pas top.
Il avait été bon contre Lyon quand même.
Contre Lyon, ouais, faut le noter, il avait fait un très bon match, mais là, contre Caen, c'était catastrophique. Il coûte deux pénaltys. Il fait un saut. Alors, ça, je veux revenir vite fait dessus. Il fait un saut de l'ange façon Thierry Omeyer en handball, en pleine surface, il y a main. La seule chance, c'est qu'il ne coûte aucun but au Stade Rennais samedi soir. Il a beaucoup de chance.
Et Mélanie, dis-nous tes top et flops.
Antoine m'a piqué mon top. Hein, je voulais parler du patinage, donc du coup, là, je suis en panne d'inspiration.
Tu voulais parler du téton.
Ouais, c'est exactement ça.
En flop.
Je voulais parler. Non, en top.
En top.
Mélanie aime voir les tétons.
Non.
On apprend ça ce soir.
Non, mais en fait, l'info, c'est pas le téton, c'est qu'ils aient réussi à continuer alors que quand même, je pense que c'est assez déstabilisant de se retrouver à poil aux Jeux Olympiques. C'était ça que je voulais souligner. Ça,
très bien.
Ça montre du professionnalisme. Et en flop, une triste nouvelle là dans le village, la station d'origine de la championne olympique de ski Perrine, il y a eu un mort là, donc qui a mis fin en festivité. Je sais pas si vous avez suivi ce week-end.
Il y a eu beaucoup de morts suite aux avalanches ce week-end.
Ouais, mais il y a un jeune homme qui s'est tué en faisant une figure à ski. Alors qu'il était organisé des festivités pour
d'accord.
l'accueillir
ah,
et
oui,
dans la station d'origine. Donc,
ça tombe mal.
Ouais, ça
jette un froid sur la soirée.
Comme quoi, il faut être prudent, c'est pas donné à tout le monde.
Ah, c'est vrai que les chutes peuvent être impressionnantes aussi. Hein.
Ah, tu nous en as fait part la semaine dernière.
Non, même rien que là, ce week-end, il y en avait des belles. Hein.
Allez, il nous reste 4 minutes pour conclure.
Ouais, alors mon top, moi, c'est Cheik Diabaté et Benevento qui ont gagné leur deuxième match de la saison dans le championnat italien. Et le bon Cheik Diabaté pour son premier match qui marque à la 89e minute pour offrir la victoire à son équipe. Je pense que ça ne s'invente pas. Cheik Diabaté, toujours là dans les bons coups. Et mon flop, alors je suis désolé, je m'en souviens plus de son nom, mais c'est un skieur de l'équipe de France qui a été viré. Parce que dimanche, après son épreuve, on lui a demandé ce qu'il pensait de la prestation de l'équipe de France. Il a dit « Moi, je m'en fous des obs, je cours pour ma pomme, mais l'équipe de France, ça ne m'intéresse pas. » Donc, il a été très gentiment renvoyé chez lui et il ne participera pas à la suite de la compétition.
Tant mieux.
Bon, mon top, c'est Roger Federer, qui est devenu numéro 1, quand même, à son
redevenu,
âge.
Encore redevenu, encore une fois, l'éternel Roger.
36 ans, voilà.
C'est impressionnant, ça.
premier meilleur mondial. Hein. Et j'ai pas de flop, donc je mettrais juste le top aussi du week-end All-Star Game, parce que ça faisait 2 ans que c'était un peu compliqué pour le All-Star Game, et là ça a été bien, donc voilà, mes 2 tops. On termine rapidement avec le quiz, c'est toi qui t'y colle, Bérénice, dans l'absence de Germain.
Alors, qui a pour surnom le King?
Bah, LeBron James.
Non.
Elvis Presley.
Non, bah non, c'est un sportif.
Bah, c'est LeBron James, le King.
Non, c'est Eric Cantona.
Ah oui, bah
on l'appelle également. Il y a beaucoup de King. Hein.
Oui, c'est un quiz d'actualité.
Ah oui. Comment s'appelle la mascotte des Jeux d'hiver?
Bah, un truc moche comme d'hab.
Kinder Pingui.
Non. C'est un nom coréen, du coup.
C'est un coréen. Kim quelque chose, non?
C'est Su-O-Ring.
Su-O-Ring.
Alors, Su-O, ça veut dire protection, donc c'est-à-dire qu'il protège les athlètes. Et Ring, ça veut dire un tigre, parce que du coup, c'est un tigre.
Un tigre. Voilà.
Tigre, oui.
Le tigre protecteur, alors, à peu près.
Exact.
Oh. Merci,
exact,
Clément.
Exact, Clément. Avec qui Pamela Anderson est-elle
en Adil Rami, ouais. On l'a tous. Elle s'est installée à Marseille,
non,
là, pour la petite info.
Par Raphaël, ouais, exactement.
Si je l'avais. Oh, dur.
Alors, combien la France a perdu face à l'Italie en 2006 pendant la Coupe du Monde?
Au tir au but, un partout.
Il y a eu un partout.
Tir au but.
Et combien les tirs au but?
4-3.
5-4. 3-2. 3-2.
C'est rien.
5-3.
Je me rappelle plus.
J'étais déjà parti pleurer. Attends, tu l'as dit à la fin, toi.
Non, c'est 5-3.
Il a triché. Antoine
n'a rien arrêté.
Très aigué sur la barre, on s'en souvient tous.
Quel joueur a demandé d'être recruté par le biais de LinkedIn?
C'est un footballeur?
La main noire.
Bah, je sais pas, on doit pas trop le connaître. Il est connu? Il est français?
Bah, c'est Atta Nodby.
Ah ouais, bah non.
Oui, bah,
c'est un joueur de Leicester City.
Ah, de Leicester? Ah ouais.
Ouais. Donc, si, quand même, je pense que vous pouvez connaître.
Bah, pas forcément. Si c'est un jeune, on connaît pas forcément, non.
Non, c'est vrai qu'il a, tout, il a 19 ans. Il est,
ah bah oui, bah, s'il est dans l'équipe réserve. Et puis en plus, oui, s'il ouais. demande sur LinkedIn, c'est qu'il est pas très très connu et pas forcément
ça,
talentueux. Je n'en veux pas spécialement à ce joueur, mais.
Alors, combien d'athlètes en Corée du Sud qui concourent aux Jeux d'hiver portent le nom de la portent le nom de famille Kim?
11.
Ouais,
15.
52.
11.
Et toi, Mélanie?
25.
Et bah, vous êtes. C'est toi, Mélanie, qui est la plus proche.
Combien?
C'est 34 fois.
What?
Ouais, elle est sacrée confusion, mais par contre, ce qu'ils disent dans un article que j'ai vu, c'est qu'ils se confondent pas du tout. Ils savent qui
savent qui sont.
Plus, ça va, ils se ressemblent pas non plus au niveau du faciès, quoi.
Comme a dit Thierry Roland en 2002, rien ne ressemble plus à un Coréen qu'à un autre Coréen.
Dangereux, dangereux, dangereux.
Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a 13 qui s'appellent Lee et 9 qui s'appellent Park.
On peut faire un dortoir avec tous ces lits.
Mais la France est un des pays où il y a le plus de variété dans les noms de famille, ça faut le souligner.
Oui, bah, exactement.
Allez, il est 20h, on
et quel sport a été introduit pendant les Jeux d'été de 1900? Et Antoine a parlé de dire.
1900?
Ouais.
Tir à l'arc?
Oh.
Biathlon?
Arrête, Antoine.
Tir à la carabine?
Le tir au pigeon?
C'est le tir
vivant.
Au pigeon. Bah, Antoine, t'as perdu en tout cas.
Merci pour le quiz. On est déjà en retard. Il faut laisser la place à l'émission Pump Up the Volume. À lundi prochain. Salut à tous.
Salut.
Ciao. Bonne semaine.
Salut.